Bonsoir. L'État congolais bénéficie d'un allègement de la dette de la part du Fonds monétaire international FMI d'un montant de 20 millions de dollars. L'annonce a été faite mardi 14 avril par le ministre du Budget Jean-Baudouin Maillot. Par ailleurs, les ministres des Finances et les banquiers centraux du groupe G20 ont donné leur aval hier à une suspension immédiate et pour une durée d'un an de la dette des pays les plus pauvres, particulièrement fragilisés par la crise liée à la pandémie du coronavirus. Entre-temps, le pape François et les organisations de défense de droits de l'homme en Afrique parlent pour l'annulation pure et simple de la dette des pays les plus pauvres. Quelle analyse faire de la problématique de la réduction de la dette débattue en ce moment et en quoi cet allègement peut-il contribuer à la lutte contre le coronavirus? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Jean-Marie Bamporiki, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget. Jean-Marie Bamporiki, bonsoir.
Bonsoir, Yvonne.
Mais également Emmanuel Mukundi. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Député national élu de Nyuzu, province du Tanganyika, mais également professeur à la faculté des sciences économiques et de l'université de Kinshasa. Et enfin, Léonard Kabeya Chikuku, professeur d'économie du développement à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, également directeur honoraire de l'Institut panafricain pour le développement à Douala, au Cameroun. Kabeya Chikuku, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'État congolais bénéficie d'un allègement de la dette de la part du FMI, Fonds monétaire international, d'un montant de 20 millions de dollars américains. C'est ce qu'a annoncé le ministre du budget à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique mardi à la primature. Il ressort cependant de cette réunion que le taux d'inflation au pays a atteint à ce jour 5,7% sur un objectif annuel de 8%, une situation qui impose des mesures spécifiques, estiment les membres du comité de conjoncture économique, l'essentiel avec Billy Ivan Lutumba.
D'après Jean-Baudouin Maillot, le gouvernement s'impose d'appliquer toutes les mesures prises jusqu'alors, notamment l'accompagnement des entreprises privées, l'allègement du train de vie en faveur de la population. Celles-ci sont complétées par la suppression des taxes sur la production ou l'importation des denrées de première nécessité. Dans une interview à Radio Okapi, Augustin Matata Ponyo, ancien ministre de l'économie et premier ministre congolais, recommande pour sa part un programme d'urgence de la part du gouvernement.
Un programme qui consiste à pouvoir soutenir le secteur de la production, le secteur minier qui se trouve être le poumon économique qui contribue à près de 33% de la production nationale.
À la question de savoir s'il est opportun aussi pour la RDC de recourir à la planche à billets à l'instar d'autres puissances mondiales, l'économiste n'y va pas par le dos de la cuillère. La planche à billets est une source de l'hyperinflation.
L'hyperinflation, c'est un impôt tacite sur le pouvoir d'achat de la population. Le conseil que moi je peux donner, c'est que pour pouvoir booster l'économie, il est question d'un leadership de qualité, capable de tracer une vision de développement, mais il faut aussi une gouvernance de qualité. La mal-gouvernance n'a jamais été un atout pour le développement d'un pays.
Rappelons par ailleurs que la Fédération des entreprises du Congo soutient qu'il existe encore des stocks nécessaires des denrées de première nécessité et donc la hausse des prix sur le marché n'est que de la pure spéculation des marchands.
Jean-Marie Bamporiki, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget. Tout à l'heure, vous allez nous éclairer davantage sur les mesures spécifiques face à l'inflation dont il est question en République démocratique du Congo. Mais d'entrée, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage plus important sur ce concept de l'allègement de la dette par le FMI, de la dette de la RDC par le FMI, quand le gouvernement annonce que notre pays bénéficie d'un allègement de 20 millions de dollars de la part de cette structure internationale, ça signifie quoi exactement? Que la RDC paiera sa dette au FMI moins 20 millions de dollars ou est-ce que cette dette est suspendue?
Exactement. Ça veut dire que sur ce que nous devions payer au Fonds monétaire au titre des dettes, nous sommes exemptés de du paiement à hauteur de 20 millions de dollars américains.
Et à ce stade, on peut avoir une idée de combien la RDC doit déjà en termes de dette de manière générale, mais aussi particulièrement au FMI.
Bon, comptons que par trimestre, nous devons en moyenne 50 à 60 millions de dollars de dette.
De manière générale ou au FMI spécifiquement?
Bon, de toute façon, le gros de la dette, c'est dans le cadre de la coopération avec le Fonds monétaire international. Donc, la dette, quand nous en parlons, c'est en général avec le Fonds monétaire international.
Est-ce que c'est exact lorsqu'on lit à gauche et à droite que de manière générale la dette internationale de la RDC s'élève à peu près 5 milliards? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est plus ou c'est moins?
Bon, de toute façon, il faut avoir des documents de référence. Ceux qui le disent, ils doivent indiquer les sources. Mais les chiffres que moi je vous donne sont des chiffres issus de la loi de finances de l'année. Donc, pour l'année actuelle, la charge de la dette, c'est par trimestre 50 à 60 millions de dollars.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le FMI, subitement, ou en ce moment, décide d'enlever 20 millions de dollars à la dette de la RDC pour son compte?
Mais vous l'avez dit, c'est dans le cadre de l'appui au gouvernement des pays en difficulté devant une calamité naturelle du genre COVID-19, donc qui exige des ressources et ainsi pour nous alléger la tâche, dégager des ressources qu'on aurait pu affecter au paiement de la dette et les aligner aux dépenses en rapport avec le COVID, le FMI a décidé de nous, de nous dispenser de ce fardeau de 20 millions de dollars américains.
Et, oui, allez-y.
Oui, justement, donc c'est un financement indirect, quoi. C'est une absence de dépenses, c'est comme une ressource.
Alors, et quelle est la lecture du gouvernement, de manière générale, sur ce débat qu'il y a en ce moment, sur la problématique générale qu'il y a en ce moment pour les puissances occidentales, mais aussi les institutions financières, de pouvoir annuler définitivement la dette des pays africains notamment, hein, de manière définitive?
Mais c'est justement le souhait de tout pays du monde endetté, parce que la dette se place dans la catégorie des dépenses contraignantes. Donc, quand vous dégagez des ressources, en premier lieu, vous devez penser à l'apurement de la dette avant de penser à satisfaire les autres besoins dont le pays est obligé de couvrir.
Pardon. Directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Marie Bampouri, qui le concept d'allègement de la dette ou de réduction de la dette est un peu flou, hein, pour le commun de mortels. On sait que la RDC a du mal à mobiliser son propre budget, qui était estimé à 10 milliards et qui a été revu quelque peu à la baisse. Alors, quand supposons déjà les 20 millions que le FMI vient d'alléger, vous dites que c'est une bonne nouvelle, mais on sait que ça ne donne pas de l'argent frais ni dans les caisses de l'État, ni à disposition de la RDC. Qu'est-ce qu'il y a à se réjouir de cette remise des peines de la dette d'une enveloppe qui physiquement n'existe pas?
C'est quelque part déjà comme de l'argent qui existe, parce que comme je vous l'ai dit, la dette c'est dans la catégorie des dépenses contraignantes. Donc même si le système de mobilisation des recettes est défaillant, mais nous devons tout faire avec le peu que nous parvenons à mobiliser, d'aligner le paiement de la dette en premier lieu. Alors, quand on nous en dispense, ça fait de l'espace pour des dépenses qu'on n'aurait pas dû entreprendre si on était obligé de payer la dette.
Alors, Jean-Marie Bampori, vous allez tout à l'heure nous dire à quoi va servir justement, de manière très claire, hein, déjà les 20 millions qui viennent d'être allégés au pays et les 5 milliards estimatifs qui pourraient être remis pour le cas de la RDC si ça, cela arrivait. Mais est-ce que vous pouvez déjà rappeler à l'opinion comment et pourquoi la RDC arrive à contracter des dettes? Dans la vie de tous les jours, on ne voit pas ou on n'a pas toujours vu. Comment est-ce que le pays est arrivé à contracter une dette qui aujourd'hui est estimée à des montants dont on est en train de parler là?
Bon, la dette, vous savez, elle est inhérente à la vie, je peux dire, d'un État. Donc, l'État aligne des charges qui correspondent à sa politique de gouvernement. Donc, le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement. Alors, ces charges, il faut les couvrir par des moyens. Alors, il peut arriver que les moyens sont tels qu'ils ne parviennent pas à couvrir toutes les charges exigées pour la politique que le gouvernement s'est fixée. Dans ce cas, pour arriver à l'équilibre, le gouvernement est obligé de chercher des sources de financement ailleurs, notamment à l'extérieur du pays, et c'est ça qui engendre la dette. Et très souvent, c'est des financements qui sont dirigés vers l'investissement, donc vers des projets de production à moyen et long terme. Voilà.
Merci Jean-Marie Bampori, qui nous revenons à vous tout à l'heure pour évoluer dans notre débat. Emmanuel Mukundi, député national élu de Nyuzu, province du Tanganyika, mais également professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Pour un peu plus de clarté pour notre population qui n'est pas toujours spécialiste en économie. Alors, partons du fait que la RDC en ce moment pourrait tourner avec un budget aux alentours de 5 milliards, 7 milliards. Qu'est-ce que les 20 millions allégés du FMI pourraient avoir comme effet dans la réalité des dépenses de ces fonds du budget?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir donné l'occasion de participer à ce débat. Je commence d'abord par saluer mes co-débatteurs, les deux CAB et le professeur Kabea Tshikuku, qui, est, entre autres, est l'un de mes maîtres. En fait, je voudrais quand même commencer par donner un peu de clarté sur l'allègement de la dette par les FMI. L'allègement de la dette, ça voudrait dire quoi? Les pays africains, je parle de pays africains, nous sommes obligés de payer tel que les systèmes financier international nous impose, nous sommes obligés de payer chaque mois, chaque trimestre, donc prendre une partie de notre budget pour pouvoir allouer au service de la dette. Et donc, parmi les personnes morales ou les institutions auprès desquelles devons payer la dette, existent aussi les fonds monétaires internationaux. Donc nous avons la dette du fonds monétaire international, et les fonds monétaires internationaux se réveillent aujourd'hui pour dire non, attendez, ne me payez pas sur la part que j'ai, ne me payez pas 20 millions. Moi, je pense que le DECA pouvait bien nous aider s'il pouvait nous dire nous devons combien au FMI. Ça pouvait nous permettre de faire les statistiques qui permettaient à nos auditeurs de bien nous comprendre.
Alors, il a estimé que la RDC devait au service de la dette chaque mois entre 50 à 60 millions de dollars, si je ne me suis pas trompé. Donc, il nous laisse faire les calculs.
Ça, c'est pour tous les créanciers, ça, c'est pour la dette extérieure, ça, c'est le global. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on ait la précision sur le Fonds monétaire international. Mais quand cela n'est tienne, regardez, si nous faisons les statistiques, en fait, en présentant les statistiques, le DIRCAB m'amène à trouver à peu près 2,4 milliards de dollars américains que nous devons comme dette extérieure.
Ça correspond, selon vous, aux chiffres qui sont avancés, attribués au FMI, à la Banque africaine de développement, comme étant la dette officielle de la RDC?
Pas du tout. Moi, je prends les statistiques du DIRCAB. Il a dit, nous payons à peu près 50 ou 60 millions par trimestre. Si vous multipliez par 4, vous avez à peu près, moi je suis aussi dans l'à peu près comme lui, c'est 2,4 milliards de dollars que la RDC doit à l'extérieur.
D'accord.
Mais alors, si nous prenons 20 millions, regardez un peu, 2,4 milliards moins 20 millions, qu'est-ce que ça représente? C'est absolument rien. Mais si nous prenons en pourcentage, c'est moins de 1%. C'est à peu près 0,2% ou 0,6%. Ça varie entre 0,4 et 6%. Parce que moi, au départ, j'avais calculé avec le 5 milliards dont on parle. Mais si nous prenons la dette par rapport au PIB, c'est autour de 16 à 17% du PIB. Donc, les 20 milliards allégés par le Fonds monétaire international, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Je reviendrai. La suspension de la dette. La suspension de la dette, ça a été un débat. Il fallait peut-être un moratoire, ça c'est le président français. Un moratoire, ça voudrait dire payer le principal sans payer les intérêts. Mais la suspension, ça voudrait dire que pendant toute cette année, nous ne payons pas la dette. C'est ce que ça voudrait dire. Mais moi, je prends la position, moi comme tous les autres économistes africains ou des pays en développement, nous prenons la position de pape. Il faut annuler absolument cette dette-là. Je dirai pourquoi pendant l'émission, mais je rentre à votre question. Devons-nous nous réjouir, n'est-ce pas, à cet allègement de 20 milliards, de 20 millions? Je suis mitigé. Je peux dire oui, je peux dire aussi non. Pourquoi je dis oui? Parce que nous sommes dans un système qui nous est imposé, comme je le dis. Le système financier international nous impose ou impose aux nations faibles de recourir à ces institutions. Et vous recourez à ces institutions, et donc vous êtes obligé, parce que c'est une dette, vous devez rembourser, et donc vous êtes obligé d'allouer une grande partie des ressources au service de la dette. Donc, la partie du budget, une partie importante du budget, doit être allouée au service de la dette. En ce moment-là, si nous ne pouvons pas payer pendant cette année, ou nous ne pouvons pas payer 20 millions de FMI, ou nous ne pouvons pas payer pendant cette année toute la dette, moi je me dis oui. Nous, on peut se réjouir un tout petit peu parce que, bon, au lieu de rembourser le 20 millions, au lieu de payer la dette, nous n'aurons pas à payer. Cependant, nous allons économiser ou nous allons utiliser ces ressources ou les allouer à la lutte contre la maladie, parce qu'il s'agit de ça. Là, oui, je peux dire oui, on peut se réjouir, mais j'ai dit grandement non. J'ai dit grandement non, comme je viens de le dire, parce que ça, c'est une solution éphémère. C'est une solution éphémère. Vous savez, je vais rappeler aux auditeurs, l'histoire de la dette, c'est une histoire qui crée, moi, ce que j'appelle une certaine colonisation financière. C'est une arme utilisée par les autres pour pouvoir mater les faibles. Et vous vous souviendrez, cette histoire, c'est depuis 1982, lorsqu'il y a eu la crise de Mexique, ce que nous avons appelé la crise d'endettement, qu'on continue à proposer à nos pays des solutions, et lesquelles solutions n'aboutissent pas. Je vais vous donner quand même quelques solutions. Vous prenez l'échelonnement de la dette. Ça a été proposé dans les années 80. Ça n'a pas apporté quelque chose. Vous prenez la capitalisation des entreprises publiques. Ça n'a pas apporté quelque chose. Vous prenez le new money ou l'apport des capitaux nouveaux. Ça n'a pas apporté quelque chose. Il n'y a pas longtemps, ici dans les années 2000, on nous a trop parlé ici des points d'achèvement et qu'on sort l'annulation de la dette. Ça n'a pas apporté quelque chose. Voilà pourquoi les papes, comme les autres, comme nous autres, nous disons il faut absolument annuler cette histoire de la dette parce que l'histoire de la dette impose aux pays, des pays pauvres, de s'appauvrir davantage. S'appauvrir davantage pourquoi? Parce que ces ressources qui sont affectées à une dette qu'on ne sait pas l'origine, on ne sait pas bien expliquer l'origine, pouvaient être affectées plutôt à la dette intérieure. Parce qu'il y a des petites entreprises, il y a des entreprises nationales qui ont aussi besoin de la monnaie, parce que, et aussi ont apporté quelque chose à l'État, mais l'État n'arrive pas à pouvoir rembourser, n'est-ce pas, la dette intérieure aux petites et moyennes entreprises, à l'industrie nationale, alors que cela constituerait un choc important pour notre économie. Si l'État pouvait prendre beaucoup de moyens pour l'orienter vers la dette intérieure, ça pouvait être un choc pour nos petites et moyennes entreprises.
Donc, merci Emmanuel Mukundi. Nous revenons à vous tout à l'heure aussi pour un deuxième tour de parole. Léonard Kabeya Chikuku, professeur d'économie du développement à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, également directeur directeur honoraire de l'Institut panafricain pour le développement à Douala. On a l'impression qu'il y a plusieurs formes de communication qui se déroulent en ce moment en rapport avec une remise ou une annulation de la dette des pays les plus pauvres, particulièrement les pays africains. On parle d'un moratoire, nous venons d'entendre pour le cas de la RDC, on parle d'un allègement de 20 millions. Que faut-il déjà pour vous, faut-il se réjouir de cet allègement de 20 millions et que faut-il entendre en définitive de toutes ces communications? Il y a moratoire aussi pour la RDC, plus allègement, ou c'est un peu une confusion générale?
Oui, je comprends votre question. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde qui est sur le plateau. À Emmanuel Mukundi, professeur, un de mes anciens étudiants. Merci beaucoup pour les paroles aimables qu'il vient de prononcer à mon endroit. Merci à Boporiki, qui est un de mes étudiants aussi. Je voudrais dire ici que la question de la dette dérange beaucoup. Je ne voudrais pas rentrer dans tous ces détails-là. Est-ce que c'est l'échelonnement? Est-ce que c'est la suppression? Est-ce qu'on supprime le principal et les intérêts? Ce sera pour quand? Ça représente quel pourcentage? Et tout et tout. J'appartiens à une génération qui a partagé le désir ou le délire collectif de l'indépendance nationale. J'étais jeune étudiant, je venais de terminer mes humanités. Nous n'avons jamais pensé un seul instant que nous aurions à débattre des questions comme celle-là. Nous étions dans un même bateau presque avec le Canada, où l'on ne discute pas ce genre de questions. Nous étions avec la Corée du Sud, où on ne discute pas ce genre de questions. L'Inde n'était pas devant nous, ça c'est sûr. On ne discute plus ce genre de questions. Il y a l'Afrique du Sud, qui était au même niveau que nous, hein, légèrement en dessous du Congo. On ne discute pas ce genre de questions. Cette question de la dette est une question que nous pouvons développer, analyser à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui que nous pouvons appeler le niveau public international. Poser la question, est-ce que c'est bien d'alléger la charge de la dette à une nation qui respire déjà très mal comme le Congo, la réponse est tout à fait claire, oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Le professeur Mukundi l'a dit, et j'ai bien reçu son analyse. Oui. Quand une nation ne sait déjà plus respirer, quand elle est acculée par une maladie comme celle contre laquelle nous combattons, quand elle est pratiquement en détresse, c'est oui. Humainement, c'est oui. Au plan humanitaire, c'est oui. Sans embâge, sans détour. Mais maintenant, quand nous nous retrouvons entre nous, Congolais, nous aurons demandé l'indépendance, nous l'aurons réclamé pour rester dans ce genre de débat. C'est un débat. Excusez-moi, je ne vous lance pas des colibés, mais je vous dis, c'est un débat qui n'honore personne. Le débat sur la dette. Est-ce qu'on nous retire la charge ou pas? Le poids, est-ce que ça sera allégé ou pas? L'Inde n'est plus là. La Chine n'est plus là. Les pays que j'ai cités là ne sont plus là.
Professeur, professeur, vous vous indignez tout à l'heure justement qu'on soit dans cet état alors qu'on était mieux loti que beaucoup d'autres pays qui aujourd'hui sont développés. Mais professeur, oui. Qu'est-ce qui année après année a gardé la RDC comme un pays qui ne peut pas se passer de la dette? Et d'ailleurs, Pour quelles raisons, généralement, oui, on nous a expliqué tout à l'heure ici, c'est pour des raisons de production, mais pour quelles raisons la RDC prend-elle des dettes récurrentes et est-ce qu'il est possible aujourd'hui, avec la RDC d'aujourd'hui, de se passer justement de cette dette qui vous indigne tant?
Très bien. La question, c'est que ce débat n'a jamais été ouvert. Tous ces spécialistes que vous avez à gauche et à droite, qui parlent de ton haut, de ton bas, qui sont nationaux ou étrangers, n'ont jamais posé la vraie question du Congo.
Ce serait quoi, professeur?
La vraie question du Congo est celle-ci, excusez-moi, la vraie question du Congo est celle-ci. Qu'est-ce que le Congo produit comme richesse envoyée à l'extérieur? C'est combien par an? Et qu'est-ce que le Congo reçoit de l'extérieur comme richesse? C'est combien? Et lorsqu'on met les deux sur la balance, sur deux plateaux de la balance, question, est-ce que nous sommes exportateurs nets de richesses ou importateurs nets de richesses? Je dis, je réponds sans ambage, que nous sommes exportateurs nets de capitaux, exportateurs nets de revenus, exportateurs nets de richesses. Et c'est ça qui énerve. Quand les richesses sortent la nuit et le jour on nous parle des dettes que nous contactons, ça pose réellement un problème. Donc, nous avons un système de production. Ce système de production n'a jamais servi à quoi que ce soit d'essentiel pour que nous puissions construire parallèlement un système financier à nous.
Professeur Kabeya Tchikoukou, pour ne pas vous couper la parole, je sais que vous voulez maintenant nous donner les pistes de solutions. Nous y revenons tout à l'heure pour vous redonner aussi la parole. Le temps de faire réagir Jean-Marie Bampori qui, sur ce commentaire qui nous vient de Kananga.
Maître Alidor Mampouya, à partir de Kananga, dans la province du Kasaï central, nous ne pouvons pas à tout moment saluer des mesures de réduction des dettes. Ce ne sont pas des moyens qui manquent à notre pays. Quand des individus détournent des millions de dollars et nous nous montrons insolvables de payer la dette internationale, l'ère du paternalisme occidental est révolue. Nos dirigeants doivent prendre conscience. L'allègement de la dette n'est pas l'occasion de détourner les fonds de l'État. C'est plutôt une interpellation.
Directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Marie Bampori, qui, cet auditeur, est plus ou moins assez révolté, aussi bien que le professeur Tchikoukou, il n'est pas contre. En fait, pour lui, cette réduction de dette ne semble pas l'intéresser.
Comment ça ne l'intéresse pas? Parce que tout le monde, le professeur Tchikoukou, que je salue en passant, mon professeur, tout le monde a démontré que ne pas payer la dette, c'est dégager des moyens pour s'occuper d'autres choses d'utiles pour le pays. Donc, on devrait tous en être contents. Alors, l'auditeur, il fustige le recours à la dette. Même le professeur l'a évoqué un peu. C'est vrai que le pays a un potentiel tel qu'il peut dégager plus de moyens qu'il n'en dégage réellement. Mais c'est toute une question de révision, de correction du système de mobilisation des ressources. Donc voilà.
Et justement, le professeur a posé ce qui, pour lui, semble le vrai débat et la vraie réflexion qui aurait dû déjà être faite depuis plusieurs années, celle de devenir producteur des richesses pour, si je l'interprète bien, minimiser le recours à la dette extérieure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les richesses que nous produisons sont à même de nous dégager des moyens pour financer à l'aise le budget que l'État aligne chaque année. Je vais vous donner à titre d'exemple. Nous venons de terminer l'année 2019 avec des richesses entre 50 et 55 milliards de dollars américains. Mais à la fin de l'année, nous n'avons pu dégager que 4 milliards de recettes publiques. Vous rapportez 4 milliards sur 50 ou 55, c'est pas même 10% de prélèvement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
ça veut dire que le système de collecte de recettes a des problèmes. Et vous ne pouvez vous imaginer que l'État soit rémunéré à un taux inférieur à celui de la dîme qu'on donne sans contrainte.
Est-ce qu'on peut imaginer... Est-ce qu'on peut aussi imaginer que ces fonds qui sont importants, potentiellement collectés, ou généralement collectés, comme vous l'avez dit, chaque année, et qui se dilapident, soient volatilisés à cause de la, notamment des détournements et des formes de corruption?
Je n'ai pas parlé de la dilapidation. J'ai dit ce qui est récolté est insuffisant par rapport à la capacité, par rapport au potentiel. Donc, si je reviens au calcul, si vous avez 50 milliards de richesses produites, si vous y appliquez le fisc 20%, qui est la moyenne de pression fiscale en Afrique centrale, ça veut dire que vous pouvez aligner facilement un budget de 10 milliards de dollars.
Jean-Marie Bampori, qui, si je me trompe, vous me corrigez, est-ce que la majorité des fonds justement mobilisés par la RDC, qui sont estimés à 50 milliards, tel que vous venez de le dire, est-ce essentiellement les ressources minières ou il y a d'autres formes de production que nous n'avons pas souvent l'habitude de savoir?
C'est l'économie en général. C'est les mines, c'est la forêt, c'est le commerce, c'est toute l'économie. Donc, les richesses produites sont évaluées pour l'année 2019 à 50 à 55 milliards de dollars américains. Donc, voilà. Donc, c'est le produit intérieur brut, quoi, le PIB.
Merci, Jean-Marie Bampouriki. Nous reviendrons à vous pour les conclusions de cette émission. Le temps de faire réagir aussi Emmanuel Mukundi à cette réflexion qui nous vient de Lubumbashi.
Je salue cet allègement de la dette du pays par les FMI, la somme là soit mise en disposition. Vu qu'une période nous sommes en train de vivre de multiples problèmes tels que la pandémie de COVID-19 dans notre pays et les insécurités à l'Est. Aussi, l'Ebola qui commence encore, alors nous appelons les dirigeants de prendre conscience de résoudre les problèmes cités.
Emmanuel Mukundi?
Oui, je vous écoute. Bon, en fait, je crois que l'auditeur, il se prononce, il voudrait que c'est qu'on, les économies qu'on réalise par l'allègement soient orientées vers d'autres secteurs, notamment la santé, l'Ebola et consorts. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur, le mode de la thérapeutique parfois qui nous est proposé. Vous savez, le professeur Kabea Tchikoukou l'a dit, nous devons quitter l'économie classique. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait, le prof Kabea l'a tracé, je l'ai dit avec la crise de Mexique depuis les années 80, nous sommes dans le même modèle, et puis lorsqu'on se retrouve dans une situation, on parle de la dette, où on a la crise, on a la difficulté de faire avancer l'économie, directement il y a des solutions telles qu'il faut appuyer le secteur minier, il faut ne pas utiliser les financements monétaires, c'est-à-dire les financements de la Banque centrale. Mais moi, je vous dis, mais toutes ces solutions-là, on les propose, mais ces solutions-là n'apportent pas ce que les Congolais attendent. Moi, je pense qu'il faut quitter la réflexion classique. Il faut aller vers une réflexion qui est interne, propre à notre économie. On peut se poser les questions autrement. L'Europe qui aujourd'hui prévoit ou cherche 500 milliards d'euros pour l'après-crise. L'Amérique cherche 200 milliards de dollars pour l'après-crise. L'Amérique trouve ça où? L'Amérique a caché ça où? Ou l'Europe a caché ça où? Voilà, il faut se poser de telles questions. Pourquoi nous ne pouvons pas nous utiliser, n'est-ce pas, le même mécanisme que les autres utilisent?
Professeur, là aussi, comme je ne suis pas aussi expert que vous en économie, les autres, si j'ai bien suivi l'actualité ces derniers temps, ils vont recourir à la planche à billets. Parce qu'ils auraient des réserves. Ils auraient des réserves avec de l'or et d'autres ressources de valeur. Est-ce que nous, la RDC, on peut aussi se permettre de recourir à la planche à billets sans fauter?
Ne vous en faites pas, mon cher ami. En économie, il y a ce qu'on appelle les situations exceptionnelles. Il faut aussi utiliser les techniques non conventionnelles. Donc, il ne faut pas les laisser dans les classiques. Les classiques, ça voudrait dire quoi? Bon, on a de l'or et puis bon, on va créer la monnaie. Ne vous en faites pas. Ces économies sont des économies financières. Ce sont des économies qui aujourd'hui vous demandent. Ils vous disent, bon, nous allons vous prêter. Ils créent la monnaie et vous prêtent. Et le lendemain, ils vont utiliser votre monnaie pour booster leur économie. Voilà pourquoi moi je dis, écoutez, je peux répondre à votre question en me posant aussi d'autres questions. Nous avons vu les banques centrales, n'est-ce pas, racheter les dettes publiques. Comment elles ont acheté des dettes publiques? Vous allez me dire toujours que c'est par des mécanismes classiques. Pas du tout. Nous avons vu pendant la crise les banques centrales acheter les titres de créances des institutions financières non monétaires. Ça, ce sont des choses que nous avons pris qui ne sont pas dans les classiques. Nous avons vu les banques centrales racheter les titres de créances des États fédéraux, c'est-à-dire des entités administratives non décentralisées. C'est-à-dire des entités administratives décentralisées. Et donc, pour moi, j'appelle à une réflexion du mécanisme de financement de notre économie. Parce qu'on s'arrête seulement à l'appui du secteur minier, l'appui du secteur agricole, ne pas créer la monnaie. Mais attendez, au jour d'aujourd'hui, il y a ces débats-là. Les débats sur la banque des derniers rangs, la banque des derniers ressorts. Il y a ces débats-là. C'est pour dire quoi? Il y a moyen que la banque centrale, l'État, pour ne pas parler de la banque centrale, que l'État réfléchisse comment on peut rentrer au financement de l'économie nationale.
Merci Emmanuel Mukundi. Vous aussi, vous aurez votre droit de parole pour conclure cette émission. Professeur Kabeya Chikuku, pour vous, ce commentaire qui nous vient de Kinshasa.
C'est Maître Laurent Otumbe, j'appelle de Kinshasa. Nous ne nous opposons pas au principe de l'allègement parce que ce principe est fondé sur la solidarité internationale au moment où tout le monde entier connaît les affres de cette pandémie. Mais au regard de la situation congolaise, moi je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan et que les autorités en principe devraient aujourd'hui se battre infatigablement pour ramener les fonds présumés détournés dans les caisses de l'État pour faire face à cette pandémie qui de se comporter comme un mandat dans le monde international. Parce qu'il faut retenir en fait que l'allègement d'une dette ou d'une créance est un acte de honte plutôt qu'un acte d'honneur sur le plan international.
Professeur Léonard Kabeya Chikuku, votre commentaire?
Mon commentaire est tout à fait de féliciter l'intervenant de tout à l'heure. Je crois que ça n'honore aucune nation de devoir chaque fois parler dette. On n'est jamais créancier de personne. On est toujours débiteur de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Si, regardez très bien la géographie physique du pays et de l'Afrique. Si déjà le Congo, qui est le pays le mieux doté d'Afrique, je ne dis pas ça à la légère, si déjà le Congo, qui est le pays le mieux doté d'Afrique, se trouve à ce point-là, écoutez, il y a là quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas. Je voudrais être direct, je voudrais dire ceci, et rejoindre là mes deux combatteurs,
co-débatteurs,
oui, c'est Emmanuel, c'est
Jean-Marie Bambouriki,
oui, Jean-Marie, je voudrais dire ceci, le débat n'a jamais été lancé. On n'a jamais fait un débat national sur comment, pour bâtir notre destin collectif, fonder un système financier national. Vous avez l'AMIBA, qui est un monument. L'AMIBA est par terre. L'AMIBA fut un moment où l'AMIBA n'avait besoin que de 100 millions de dollars. On n'a pas trouvé dans le système financier là de toutes ces banques-là, vous en avez une vingtaine, on n'en a pas trouvé. Puis, après un certain temps, l'AMIBA avait besoin de 750 millions. Et ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Toutes les entreprises que vous voyez à l'extérieur, chez des grandes puissances, ces entreprises ont derrière elles un système financier national solide. On ne l'a jamais bâti, nous n'en avons jamais discuté, on bricole toujours avec des petites théories de la semaine et on n'arrive jamais à réaliser à discuter de la question. Je voudrais si vous n'y trouvez aucun
allez-y professeur, vous avez la parole.
Oui. Attendez. Le capital national congolais où est-il?
Professeur, on devrait, nous sommes déjà en train de conclure, la RDC devait faire quoi? Elle devrait en plus de ses minéraux, produire autre chose comme l'agriculture ou autre chose?
Non, je voudrais indiquer que si l'imagination collective représentée par les dirigeants pense à toujours faire appel au capital étranger, jamais rembourser la dette intérieure, jamais encadrer, pousser et renforcer le capital national à l'intérieur, mais on tombe dans ce genre de situation.
Merci, professeur Kabea Chikuku. Emmanuel Mukundi, député national. La RDC, pour être plus efficace, outre le recours à la production de la monnaie, on peut faire quoi pour développer son économie et éviter la dette?
Mon frère, je crois que le professeur Kabea Chikuku, que vous avez coupé, vient de vous donner une bonne réponse. L'ordre économique mondial est en train de connaître une mutation. Et donc, il nous faut éviter des solutions de prêt à porter.
Merci Emmanuel Mukundi. Jean-Marie Bampori, qui est un peu de mots, est-ce que les propositions données par les deux économistes de ce soir peuvent être appliquées en RDC?
Oui, nous parlons de la dette. Quand nous parlons de la dette, il s'agit de la dette de l'État. Donc, il s'agit d'une question budgétaire. Or, la question budgétaire appelle la question de la mobilisation des recettes budgétaires.
Merci Mimi Kindou, Guy Maté, Kéline Kouté, Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.